Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Une petite entreprise mais de grandes ambitions. En Côte d'Ivoire, un jeune producteur d'œuvres cinématographiques a mis sur le marché des films produits localement en deux et trois dimensions. Une révolution, comme le dira notre correspondant à Abidjan dans le premier volet de ce magazine. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute d'Afrique 7 jours en compagnie de Fréjus Kenom et Marie-Ange Piron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Alors la République démocratique du Congo occupe largement encore apparemment les colonnes de la presse allemande.
Effectivement, Fréjus, au risque d'être monotone, c'est toujours l'immense Congo qui squatte en quelque sorte les colonnes de la presse.
On le verra tout à l'heure dans le second volet d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous, voilà pour le sommaire. L'histoire de la bande dessinée ivoirienne remonte aux années 1970 avec l'hebdomadaire Ivoire Dimanche. Depuis quelques temps, certains des personnages de ces bandes dessinées sont au cinéma et dans la publicité, car le secteur de la cinématographie ivoirien a été révolutionné par un jeune homme d'une trentaine d'années qui a monté une structure qui fait tout en deux et trois dimensions. Julien Adaye, notre correspondant à Abidjan, est allé visiter les installations et comprendre comment ça fonctionne.
Logé dans un modeste appartement de 4 pièces au troisième étage d'un immeuble, Arobaz Studio est spécialisé dans la 2 et la 3D. Cette jeune structure fonctionne avec 12 agents, 5 ordinateurs de marque, un studio d'enregistrement de voix et 2 appareils photo-vidéo. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle structure? La réponse de Simon Kouassi, son directeur général et fondateur.
Arobaz Studio est une maison de production de films d'animation 2D 3D. J'ai vu le besoin à travers les enfants, à travers notre continent et plus précisément en Côte d'Ivoire. Sachant très bien qu'à Abidjan, il n'y a pas une maison proprement dite de films d'animation. Donc on a décidé de monter ce projet et toucher le grand public.
Si bon nombre d'agences de communication et autres régies publicitaires se tournent vers ces structures afin de donner une touche spéciale à leurs vidéos et spots, le travail à Arobaz Studio n'est pas de tout repos. Jean-Claude Mominet, responsable technique, nous explique comment il procède pour mettre en route un projet.
J'organise d'abord le travail en fonction du projet qu'on va réaliser. Et ensuite, on passe au script, après au dessin et puis au montage vidéo. Il n'est pas facile de faire des créas, de réaliser même un film. Parce qu'il faut d'abord avoir une idée qui sort de l'ordinaire, une idée originale. Ensuite, faire des recherches, des documentations pour pouvoir aboutir à la matérialisation de l'idée. En général, les personnages que nous représentons sont des personnages africains. Parce que d'abord, nous sommes africains. Bien qu'on est africain, on regarde ce que les autres font, on s'inspire d'eux. Mais au fond, on veut adapter leur manière de voir, leur manière de réaliser et adapter ça dans notre culture africaine. Sinon, à part ça, les personnages sont typiquement africains. Ça veut dire les décors, les personnages, l'ambiance, l'environnement, la manière de parler africain. Les sujets traités, ça va dépendre de notre inspiration. On peut faire un film à la Terminator, mais qui se déroule en Afrique avec des personnages africains. Mais pour un début, on se concentre sur la manière de vivre en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Et puis on essaie de trouver l'idée qui convient à la société.
Dans toutes les productions d'Arobaz Studio Visionné, les personnages ont pratiquement les mêmes traits spécifiques. Martial Arsin, l'un des principaux dessinateurs, nous livre le secret de ce choix et énumère quelques-uns de leurs instruments de travail.
Généralement, pour dessiner, c'est un peu complexe. Si on veut pousser le dessin, c'est pourquoi il y a des études, tout ça. Il faut apprendre. La caricature, d'abord, c'est pour rendre drôle, hein. C'est pour rigoler. Donc, il faut d'abord chercher à se moquer. Et puis, c'est là que tout vient. L'idée de chronique ou bien les gros yeux. On cherche toujours un truc un peu moquant chez une personne. Et puis, on cherche à exagérer ça pour que ça soit encore drôle. Il y a beaucoup de choses comme ça encore dans le domaine de la caricature, bien sûr. Il y a crayon, gomme. Bon, après, il y a les encreurs qu'il va utiliser pour ancrer son dessin. Et puis, bon, avec la technologie, il peut faire tout cela à l'ordinateur. Il n'a pas besoin de crayon, de gomme. Si, bon, ça dépendra de lui. Mais à l'ordinateur, tu peux utiliser la tablette graphique où tu peux tout faire, dessin, gommer, mettre la couleur, mise en page, tout ça.
@studio a certes révolutionné le domaine de la vidéo, de la publicité et du cinéma ivoirien, mais malheureusement est confronté à des difficultés liées au réseau de diffusion simplement par manque de support. Car pour l'heure, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 chaînes de télévision, mais Public soutient le directeur général @studio, Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande, et c'est encore, on le disait dans le sommaire, toujours la République démocratique du Congo qui domine l'actualité africaine. Il faut dire qu'avec un Allemand à la tête de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, les médias allemands s'intéressent encore plus à ce qui se passe dans l'est de la RDC, Marion Spiron.
Martin Kobler, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en passe de devenir une véritable star ici dans les médias. À propos des derniers combats dans le Nord Kivu et la défaite du M23, l'hebdomadaire Der Spiegel va même jusqu'à titrer « La guerre de Martin Kobler ». Pour la première fois depuis un an et demi, écrit le journal, on peut emprunter la route nationale 2, celle qui va de Kiwanja à Rutshuru, sans crainte d'être pillé, violé ou tué. Car pour la première fois, souligne le Spiegel, l'ONU mobilise une véritable brigade de combat sous le commandement d'un pacifiste allemand. Martin Kobler, 60 ans, est un diplomate de carrière, c'est aussi un vert et un pacifiste qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères du temps de Joschka Fischer, lorsque l'armée allemande a été engagée dans ses 2 premières guerres, celle du Kosovo et de l'Afghanistan. Mais, souligne Martin Kobler dans le Spiegel, des opérations militaires ne servent à rien si ensuite nous partons et que les mêmes milices reviennent sur place. Son objectif n'est donc pas de pacifier d'un seul coup de vastes portions du territoire, mais de créer d'abord des îlots de stabilité.
Un autre journal, Marie-Ange, dit Tageszeitung, écrit même que 2 Allemands ont sauvé Joseph Kabila. Le premier, vous venez de parler de lui, c'est Martin Kobler. Alors qui est le second, Marie-Ange ?
Eh bien, le second Allemand a un nom bien congolais, c'est François Olenga, le nouveau chef de l'armée congolaise, nommé après la chute spectaculaire de la ville de Goma aux mains du M23 en novembre 2012. Alors pourquoi Allemand ? Eh bien parce que, nous explique le journal, ce fils d'un compagnon de lutte de Patrice Lumumba a vécu pendant des années en exil à Cologne et parle couramment l'allemand. Il est en train de vivre son 2e printemps conjointement avec Martin Kobler, lequel, souligne le journal, se comporte en véritable général. Il rend visite sous l'œil des caméras à des soldats blessés, il se fait acclamer dans les zones libérées. On en arriverait à oublier que le Congo a un président. Jusqu'à présent, Joseph Kabila ne s'est pas montré dans l'est du Congo. Mais si, pour die Tageszeitung, les 2 Allemands, comme ils les appellent donc, ont sauvé Kabila, une question demeure, note le journal, qui sauvera le Congo ? Un pays qui occupe une place centrale en Afrique, mais qui se classe au dernier rang, selon l'indice de développement de l'ONU. La majorité des 70 millions de Congolais vit dans une pauvreté extrême.
Pauvre dans un pays immensément riche en ressources naturelles, c'est ce que rappelle aussi cette semaine la presse allemande en évoquant le pillage des minerais dans l'est du Congo.
Oui, des minerais utilisés dans nos smartphones, lit-on dans la Süddeutsche Zeitung, qui consacre toute une page à ces richesses qui ont pour nom coltan, cassitérite, or, diamant ou bois précieux. Les habitants de l'est du Congo, écrit le journal, vivent depuis des années dans un enfer indescriptible, alors que cette région pourrait être un paradis. Il est connu depuis longtemps, poursuit le journal, que d'immenses quantités de matières premières congolaises sont exportées, principalement vers l'Asie, via le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Selon l'ONG INAF, le trafic d'or congolais a rapporté un demi-milliard de dollars aux rebelles de l'est du Congo soutenus par le Rwanda. et le journal d'expliquer ensuite le peu d'impact de la loi américaine adoptée en 2010, loi qui oblige les sociétés américaines à n'utiliser que des matières premières qui ne servent pas à financer des groupes armés au Congo. Rémi Kassindi, fondateur du CRESA, une petite organisation qui étudie le commerce des minerais et les flux financiers, explique pourquoi. Depuis l'adoption de cette loi américaine, les firmes n'achètent plus le coltan au Congo, mais dans les pays voisins. Les minerais, considérés comme sales chez nous, s'indigne Rémi Kassindi, deviennent subitement propres dès qu'ils ont été passés en contrebande de l'autre côté de la frontière. Cela ne peut pas être une solution.
On va terminer, Marie-Ange, par ce qui ressemble à une leçon de géographie. La presse allemande apprend à ses lecteurs, en tout cas la plupart d'entre eux, que le continent africain est infiniment plus grand que ce qu'ils voient sur les cartes.
Le géant noir, titre la Süddeutsche Zeitung. La carte du monde nous est si familière, écrit le journal, que la plupart des gens pourraient en esquisser les contours. Beaucoup, pourtant, commettraient une erreur, car le continent ventru, situé au sud de l'Europe, est infiniment plus grand qu'on ne le pense. Plus grand que la Chine, les États-Unis, l'Inde et une grande partie de l'Europe réunies. Sans doute y a-t-il plusieurs raisons au fait que le poids géographique de l'Afrique échappe à la plupart des humains. L'une d'entre elles, explique le journal, est que la plupart des cartes mondiales sur lesquelles les continents sont placés sur un rectangle horizontal conservent certes les angles, mais pas les superficies, et ceci pour que les points cardinaux entre différents endroits restent justes. Lors du transfert de la carte du monde d'un globe rond, donc sur un planisphère, les pays du Nord, comme le Canada et le Groenland, gagnent en surface. En revanche, les masses terrestres situées à proximité de l'équateur perdent une partie de leur poids sur la carte du monde.
Donc, si je comprends bien, Marianne, ce que le journal décrit ici, c'est ce qu'on appelle en cartographie la projection de Mercator. Une autre projection, celle de Peters, fait apparaître les continents dans leur taille réelle. L'Afrique est alors beaucoup plus grande.
Et voilà tout, vous avez tout compris, Fréjus.
Merci, et c'est ainsi que s'achève ce numéro d'Afrique 7 jours, avec à la présentation Marianne Spiron et Fréjus Quenhomme. Merci à tous de nous avoir suivis.